Alors, dans le Nouveau Testament, il est question à plusieurs reprises de mystère. Le mot apparaît une quinzaine de fois dans le Nouveau Testament. Mystère, c'est dans la Bible quelque chose qui était caché, mystère, hein, mais qui est maintenant révélé. Et nous allons voir donc dans les semaines qui suivront, ce sera entrecoupé hein, d'autres choses, mais les mystères de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais parler du mystère de Christ et l'Église, qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Si vous avez votre Bible, ce que j'espère, vous pouvez suivre avec moi Éphésiens 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc il termine son exposé sur le couple chrétien, sur le mari et la femme. Vous avez noté qu'aux femmes, il demande d'être soumises à leur mari, et aux maris, il demande d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et il termine en disant « Ce mystère est grand ». Alors, est-ce que c'est le mystère du mari et de la femme ? Non. Ce qui est grand, c'est le mystère entre Christ et l'Église. Et on va essayer de découvrir de quoi il s'agit ici. Ce qu'on découvre, par exemple, en 2 Corinthiens 11, c'est que nous sommes fiancés à Christ. 2 Corinthiens 11. Je lis au verset 2. Paul écrit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Ici, Paul était attristé de voir les Corinthiens qui pouvaient quitter le Seigneur Jésus qu'il leur avait annoncé pour aller vers un autre Jésus, c'est-à-dire un Jésus différent. À cette époque-là, il y avait déjà les gnostiques qui disaient que Jésus n'avait pas vraiment un corps humain, que c'était une sorte d'esprit qui avait une forme, une apparence humaine, où il y avait toutes sortes d'autres de sectes qui commençaient à apparaître. Et puis, il y avait aussi d'autres dieux, d'autres esprits, d'autres évangiles qui déjà commençaient à corrompre l'Église. Et il dit, vous avez perdu votre simplicité à l'égard de Christ. Vous vous êtes compliqué la vie. C'est vrai comme l'intellectualisme parfois, la volonté de tout comprendre, de tout calculer, de tout maîtriser, fait qu'on perd sa simplicité. Quand une femme aime un homme, c'est simple normalement, je t'aime et je veux vivre avec toi. Quand un homme aime une femme, je t'aime, je veux vivre avec toi. Quand on entre dans des complications à n'en plus finir, l'amour disparaît. Et là, il dit, vous avez perdu, je vous ai fiancé à un seul époux, c'est Christ. Alors restez attachés à lui. Pourquoi il dit qu'on est fiancé? Parce que le mariage n'a pas encore eu lieu. Chez les Juifs, le mariage était très particulier, il se passait encore comme ça peut arriver encore au Moyen-Orient. C'est que les parents choisissaient une épouse pour leur fils ou un époux pour leur fille. Généralement quand ils étaient assez jeunes. Et puis arrivait le jour où le fils était en âge de se marier. Et donc il allait à la maison de sa fiancée, là où elle vivait avec ses parents, pour aller la chercher. Donc c'était le premier acte du mariage. Le mari, l'époux, venait chercher sa fiancée chez elle. Ils repartaient ensemble avec les amis qui venaient, parce qu'ils se rendaient dans son village à lui pour célébrer les noces. Et donc, sur le chemin, il y avait de la fête, il y avait les amis qui chantaient, c'était la joie. Et ils arrivent là et ils entrent dans la salle des noces et a lieu le mariage proprement dit et avec un festin qui pouvait durer plusieurs jours quand on était riche. Et donc, pendant des années, ils ont été fiancés, mais arrive un jour, le jour du mariage. On se rappelle peut-être Joseph et Marie, ils étaient fiancés. Et lorsque Joseph a vu que Marie était enceinte sans qu'ils aient eu de relation ensemble, il s'est dit, ça y est, Marie m'a trompé, elle est allée avec un autre homme, et il a proposé de rompre, vous rappelez? En fait, les fiançailles chez les Juifs, c'était comme une sorte de mariage. Hein. Quand vous étiez fiancé pour rompre, il fallait vraiment dire, voilà, c'est presque un divorce. Les fiançailles, ce n'est pas comme aujourd'hui où on se fiance, et d'ailleurs de moins en moins, mais on se fiance en disant, bon, si ça ne marche pas, on a une porte de sortie. À cette époque-là, être fiancé, c'était en fait être promise. Hein, on a ce mot en français. Elle était promise à son époux. Quand le Saint-Esprit dit que nous sommes fiancés à Christ, ça veut dire nous sommes promis au Seigneur, nous lui appartenons déjà, mais le moment final des noces n'est pas arrivé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le moment des noces n'est pas arrivé? C'est qu'on découvre que le salut que nous avons en Christ n'est pas définitivement accompli. Il manque une partie. On a été sauvé lorsqu'on a cru au Seigneur, crucifié et ressuscité pour nous. On a été sauvé de nos péchés. On a été sauvé de la puissance du mal. Hein. On est né de nouveau. Le Seigneur nous a donné une nouvelle nature. Mais, reconnaissez-le avec moi, nous restons pécheurs. Nous ne sommes pas encore totalement sauvé. On peut dire, oui, je suis sauvé parce que Christ a payé pour ma dette, mais il manque une partie à mon salut qui ne s'accomplira que lors des noces de l'agneau. Qu'est-ce que c'est cette partie qui manque? Alors, regardons d'abord Romains 8, 24. Romains 8, 24. Peut-être qu'à ce moment du message, vous êtes troublé en disant « Moi, je croyais que j'étais sauvé, ça y est. » Et là, vous mettez en doute mon salut. Non, je ne mets pas en doute votre salut. Je dis qu'il y a encore des choses à venir dans le salut, des choses merveilleuses qui nous sont promises, mais que nous n'avons pas encore vues. Romains 8, 24. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes sauvés en espérance. On attend. L'espérance dans la Bible, c'est l'attente. Mais on attend quoi? Eh bien, on attend la résurrection. Dans le même chapitre, alors il dit par exemple, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, nous pouvons dire « Oui, nous sommes fils de Dieu. » Et verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » C'est-à-dire, nous allons hériter avec notre Père. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, si nous sommes enfants de Dieu maintenant, nous attendons l'héritage. Et c'est cet héritage que nous attendons, qui est en espérance, qui n'est pas encore là, que nous aurons au moment du retour de Christ, des noces de l'agneau. Il dit aussi que, en fait, notre corps n'est pas encore sauvé au sens propre. Voilà. Alors, je cherche le verset qui m'a échappé. Voilà. C'est juste avant, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est qu'on souffre sur cette terre parce que notre corps n'est pas encore racheté. C'est pour ça que notre corps est sujet à la maladie. C'est pour ça que notre corps est sujet aux tentations. Malheureusement, nos yeux, nos émotions, parfois, nous conduisent à pécher. Mais quand nous entrerons dans la gloire avec Christ, nous serons un nouveau corps. La Bible dit que nous ressusciterons, 1 Corinthiens chapitre 15, avec un nouveau corps qui, celui-là, sera parfait, incorruptible. Mais en attendant, il faut bien souffrir. C'est important, cette vérité, parce que dans certaines églises, ils prêchent un évangile où on ne doit pas être malade. Et si on est malade, c'est qu'on manque de foi. Ils disent que Jésus est mort aussi pour nos maladies. Et c'est vrai, quelque part, il est mort pour qu'on ait un corps parfait, incorruptible et sans maladie, mais ce corps, on ne l'a pas encore. Ce corps, on l'aura à la résurrection. Et donc, il faut s'attendre à être malade. Il faut s'attendre à mourir d'une maladie ou d'une autre. La majorité des gens qui meurent sur la terre meurent d'une maladie quelconque. Y compris les pasteurs, les télévangélistes qui prêchent qu'on ne doit jamais être malade. Donc, le salut, nous l'avons déjà, mais nous ne l'avons pas entièrement. Il nous manque une partie et nous l'aurons quand nous verrons le Seigneur. Regardez Apocalypse 19 qui décrit le retour de Christ dans sa gloire. Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia !» car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il y aura donc ce jour de joie, parce qu'un mariage, c'est un jour de joie intense, d'allégresse, où Christ va entrer dans son règne et nous allons entrer avec lui et nous allons être enlevés à sa rencontre. Et dans le ciel, il va y avoir les noces de l'agneau. Nous constituons l'Église, hein, nous qui croyons au Seigneur, qui avons le Saint-Esprit, et cette Église va être mariée à Christ. Elle aura un nouveau vêtement qui est le fin lin, la pureté, la justice des saints. Pour l'instant, l'Église n'est pas parfaite, les églises locales ne sont pas parfaites. Il y a des chrétiens qui cherchent l'Église parfaite et ils vont tourner longtemps parce qu'elle n'existe pas sur terre. Il y a toujours des défauts, des manquements dans une Église. Et en tant que chrétien, ce qu'on doit faire quand on est dans une Église dont on voit les défauts, on doit prier et être un modèle et faire que les défauts soient corrigés. Bien sûr, s'il y a vraiment une erreur doctrinale grave, une hérésie, il faut partir, il faut chercher une église qui enseigne droitement la vérité. Mais si c'est des problèmes d'organisation, je ne sais pas quoi, ou des petits points qui nous dérangent, il faut prier. Et il faut chercher à améliorer ces points, parce que critiquer et diviser, c'est toucher le corps de Christ, hein, c'est toucher l'épouse de Christ. Mais cette épouse, elle a des taches et des rides. Hein, on a lu dans Éphésiens 5... il a parlé des taches et des rides. Les femmes savent de quoi je parle. Elles luttent vaillamment contre les taches et les rides. Et le Seigneur sait que notre Église ou l'Église a des taches et des rides. Les taches, c'est ce qui est extérieur. Les rides, c'est ce qui est extérieur aussi, mais qui vient du temps qui passe et qui fait que, avec le temps, on a tendance à se refroidir, on a tendance à se laisser aller. Mais quand le Seigneur reviendra, il enlèvera tout péché, toute impureté, tout orgueil, tout égoïsme, et il ne laissera qu'une Église sainte et irréprochable entrer dans le ciel. Ce sera un jour extraordinaire. Le Seigneur, vraiment, attend aussi ce jour des noces. Comme un marié, hein, est impatient. Oh, quand est-ce qu'on va se marier? Quand est-ce qu'on va passer là, enfin être unis? C'est pourquoi la relation entre Christ et l'Église est appelée un mystère qui est révélé dans le Nouveau Testament. C'est que Christ, comme un mari, est venu donner sa vie pour l'Église. Mais un mari qui n'existe pas beaucoup sur terre, hein, un mari qui donne sa vie. Il est venu chercher des impies, des gens rebelles, pécheurs, vaniteux, peu aimables, souillés, et il est venu les racheter et en faire son épouse. Il est venu s'unir à ces personnes. Le mariage, c'est l'image de quoi ? Il y a plusieurs choses dans le mariage. Premièrement, il y a l'idée d'une alliance entre un homme et une femme. C'est très important, hein, de rappeler ça selon la Bible. À la veille d'élections présidentielles où certains candidats disent qu'ils vont intégrer le mariage des homosexuels. C'est-à-dire que le mariage pourra être redéfini comme le mariage entre deux personnes, quel que soit leur sexe. La Bible dit autre chose. Mais regardons ce que dit la Bible sur cette alliance. Malachi, donc le dernier prophète de l'Ancien Testament, il est facile à trouver, juste avant Matthieu, chapitre 2, verset 14. Le Seigneur fait des reproches aux Juifs de cette époque-là qui trompaient leurs femmes. Il dit « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Donc il parle d'une alliance là. C'est étonnant que dans la Bible, il n'y ait aucune description de cérémonie de mariage. Je veux dire, Dieu ne dit pas « Voilà, pour faire un mariage, il faut faire ceci et cela. » Non. Le mariage, principalement, c'est une alliance. Après, la façon dont la cérémonie a lieu, Dieu, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Du moment qu'il y ait cette idée d'alliance. Dans une alliance, il y a un engagement de part et d'autre. On s'engage à s'aimer. C'est pour ça que dans la cérémonie, le moment des vœux, lorsque chaque conjoint dit « Voilà, je promets de t'aimer, hein, de te chérir, etc. » selon les vœux. C'est un moment clé, parce que c'est là qu'on fait alliance. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on donne une alliance, qui est un signe, en fait. Hein. Le signe de cette alliance, c'est un anneau. Mais ça, ce n'est pas dans la Bible. Hein. On n'est pas obligé d'avoir un anneau pour un mariage. Mais c'est un signe qui est très beau, parce que l'anneau symbolise l'infini, hein, le rond. Ça veut dire que c'est une alliance jusqu'à la mort, hein, une alliance qui ne s'arrête pas. Mais le Seigneur, par cette image, veut nous dire que lui, il a fait une nouvelle alliance avec nous. Et ce qui est étonnant dans cette alliance, c'est que c'est surtout de son côté qu'elle est l'alliance. C'est-à-dire le Seigneur a dit « Je me donne à toi pour te sauver et je veux m'unir à toi pour toujours. » Et là, ce n'est plus juste jusqu'à la mort, hein, c'est pour l'éternité. Le Seigneur nous donne la vie éternelle. Ça dure combien la vie éternelle ? Ça dure une infinité de temps, c'est éternel. Le Seigneur veut s'unir à chacun de nous par cette alliance extraordinaire, l'alliance en son sang. Il a versé son sang pour s'unir à nous, pour nous sauver, pour nous laver de tout péché. Le mariage aussi, c'est l'idée de donner sa vie et d'être un. Dans Éphésiens 5, qu'on a lu tout à l'heure, pardon, dans Éphésiens 5, il dit, c'est pourquoi l'homme, verset 31, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et c'est là qu'on entre dans l'amour de Christ qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Seigneur Jésus s'est uni à la race humaine d'une façon totale. Il est vraiment devenu un homme et il restera un homme pour l'éternité. Dans le ciel, comment est décrit Jésus ? Il est décrit comme l'agneau, comme le roi des rois, mais il est aussi le Fils de l'homme qui reviendra. Pour toujours, le Seigneur a accepté de lier sa condition à la nôtre. Je parlais, si vous aimez particulièrement les papillons, est-ce que vous seriez prêt à devenir un papillon ? Moi, j'aime bien être un être humain, j'aime bien les papillons, mais je n'ai pas envie de devenir un papillon, personnellement. Et surtout, si on me dit, c'est pour toujours. Le Seigneur, qui est Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il a accepté de descendre et de devenir un homme. C'est un mystère, comment Dieu accepte de prendre la condition de sa créature, de vivre non seulement une vie d'homme pendant une trentaine d'années sur la terre, mais de rester un homme. Quand il est monté au ciel, est-ce qu'il a quitté sa condition humaine ? Non, c'est en tant qu'homme parfait, ressuscité, qu'il est monté au ciel. Et il est toujours un homme dans le ciel, tout en étant Dieu, hein ? Et cette union Dieu-homme en Christ est un mystère et ça montre à quel point l'amour de Dieu nous dépasse. Dieu aurait pu condescendre vers l'homme en disant « Bon, allez, je vais te tendre la main et te relever un petit peu. » Non, le Seigneur, il ne tend pas la main. Il devient une main. Il devient un être humain. Et quand il nous prend avec lui, c'est pour monter, pour qu'on monte avec lui, qu'on soit co-héritier avec Christ. Il nous élève plus haut qu'on n'aurait jamais pensé aller. Par simple amour. Et quand il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », d'un seul coup, ça prend tout un autre sens. C'est-à-dire « Aimez vos femmes » en étant prêt à devenir femme, si on peut dire, en la comprenant, en vous mettant à sa place et en étant prêt à l'élever. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, la condition de la femme était assez difficile. Elle a beaucoup évolué dans ces dernières années en Occident, pas dans le monde entier, pas en Afghanistan particulièrement, mais à cette époque-là, la condition de la femme, c'était vraiment, elle était considérée comme inférieure. Et avec le Seigneur Jésus et avec les apôtres, la femme a changé de condition, on peut dire. Et là, il dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. » Le but de Christ, en donnant sa vie, c'est qu'on devienne saint comme lui est saint, qu'on devienne pur. Il ne supportait pas de voir les âmes souillées, les gens ternis par le péché. Il voulait qu'on soit pur comme lui. Et il a versé son sang qui nous purifie de tout péché. Ce mystère est absolument incroyable. Même s'il nous est expliqué en partie, ça reste un mystère pour nous que Christ soit devenu un homme, qu'il se soit uni à nous de cette façon, pour toujours. Pendant la tribulation, il y aura des croyants, c'est-à-dire après que le Seigneur ait enlevé son épouse, l'Église, vers lui, il y aura des années de jugement, de fléau, mais des gens pendant cette période vont se repentir et croire. Comment sont-ils appelés dans la Bible ? Ils sont appelés les amis de l'époux. Et il y en est question en Matthieu 25. Matthieu 25. Est-ce que vous pouvez me dire le sujet de Matthieu chapitre 24, le chapitre précédent? Matthieu 24, c'est le retour de Christ. Enregistrez cette information pour toujours. Hein. Matthieu 24, retour de Christ, les signes de son retour. Mais Matthieu 25 continue ce discours de Christ. Et il donne une sorte de parabole, la fameuse parabole des 10 vierges, qui vont à l'encontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, sous-entendu étaient insensées, hein, et 5 sages. Les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, et au milieu de la nuit on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour à laquelle le Fils de l'homme viendra. » C'est que dans cette période d'attente du retour de Christ final, nous n'attendons pas son retour final, nous attendons son retour pour nous enlever. Mais dans cette attente, pendant la grande tribulation, il y aura deux catégories de personnes. Les personnes qui attendent le Seigneur, vraiment, les vierges sages. Et les personnes qui l'attendent de façon très superficielle, les vierges folles. Les vierges sages, elles persévèrent, elles prévoient que l'époux peut tarder. Et le fait qu'il tarde, je vous rappelle hein, comment se passait la cérémonie enfin, du mariage, c'est que l'époux revenait de chez sa fiancée, faisait des kilomètres, et il arrivait dans son village, et là, il entrait dans la salle des noces avec sa fiancée, revêtue de sa robe. Eh bien, pour reprendre cette image, le Seigneur va nous chercher sur la terre, il va nous enlever avec lui, et on va aller au ciel avec lui, et au moment où il va rentrer dans la salle des noces, il aimerait qu'il y ait beaucoup d'amis, bien sûr. Il ne va pas faire un mariage en toute intimité, comme on dit. Et ses amis, ce seront les gens présents à la grande tribulation. Combien vont rentrer? C'est ceux qui vont l'attendre avec persévérance, qui vont être prêts même à souffrir. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit, hein, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il dit ça dans Matthieu 24, mais il en parle aussi dans l'Apocalypse. Parce que dans la tribulation, il faudra être persévérant. Non pas persévérant dans le bien ou la perfection, persévérant contre l'opposition satanique. Il faudra être prêt à aller jusqu'au bout pour entrer dans le royaume de Christ. Nous avons autre chose maintenant, nous sommes sauvés par la grâce. Dieu nous ne dit pas persévère jusqu'à la fin de tes jours. Mais je pense aux frères et sœurs qui subissent des persécutions hein, quelque part. Il faut qu'ils persévèrent, c'est pour ça qu'on doit les soutenir dans la prière. Ils doivent affronter une opposition permanente et quelquefois subir de leur propre vie hein, cette opposition. Et les vierges folles, c'est ceux qui n'attendent pas le Seigneur de façon sérieuse. Ils disent, ah oui, le Seigneur va venir, voilà, j'espère qu'il va venir rapidement, on souffre beaucoup, mais... Elles n'auront pas assez d'huile, c'est-à-dire elles n'auront pas assez d'attente, pas assez d'espérance, de ferveur. Ce seront des croyants qui seront faux. Plus que tièdes, je dirais même, faux carrément. Des gens qui vont dire « oui, je crois en Dieu », ce sera l'église apostate hein, en partie. La fameuse Babylone prostituée d'Apocalypse 17, rempli de faux chrétiens qui parlent de Dieu, même de Jésus. Lorsque l'Antéchrist va arriver, ils vont dire « C'est lui le Christ !» Vous savez que lorsque Hitler est monté au pouvoir, lorsqu'il a été élu et qu'il a commencé à gravir des échelons hein, dans la politique allemande, un certain nombre de catholiques et de protestants ont écrit des articles et des évêques ont parlé en disant « C'est un serviteur de Dieu !» que nous avons là, qui va rétablir l'Allemagne dans sa grandeur, qui va ramener les valeurs morales, parce que les Allemands sont très attachés à l'éthique, hein, ça c'est le côté luthérien, et la pureté, et la droiture, l'honnêteté. Et Hitler incarnait à leurs yeux tout cela. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, avec du recul, on voit que c'était un menteur, un meurtrier, un occultiste, hein, il était vraiment dans l'occultisme, un fou à la fin de sa vie, un fou pervers, hein, orgueilleux au possible. Mais eux, ils l'ont vu comme incarnant un serviteur de Dieu. Eh bien, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Ces faux croyants seront les vierges folles, et lorsqu'ils voudront entrer dans le règne de Christ, le Seigneur dit « Je ne vous connais pas, vous ». Mais on s'appelle chrétien, nous aussi on a cru en toi. Non, non, vous n'avez pas cru en moi. Vous avez cru que vous avez cru en moi, mais vous n'étiez pas des vrais chrétiens. Aujourd'hui, on pourrait appliquer cette parabole. Alors attention, maintenant, c'est juste une application, mais au fait qu'il y a des vrais chrétiens et des faux chrétiens dans le monde. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Ils sont comme ces vierges folles, hein. Et d'ailleurs, le jour où il y a une épreuve pour le nom de Jésus-Christ, ces personnes-là vont laisser tomber. Oh là là, non, non, moi, je ne veux pas de problème. Si vous êtes dans ce cas, prenez vite le chemin du retour au Seigneur, du salut et de la repentance, d'être sincère avec Dieu. On ne trompe pas Dieu, on peut tromper les hommes, mais Dieu, lui, on ne le trompe pas. Nous apprenons dans la parole de Dieu qu'Israël était l'épouse terrestre de Christ. Jérusalem symbolisait, hein, cette épouse. On peut juste regarder Ésaïe 52, par exemple, verset 14. Alors, ce n'est pas ça. Pardon, Jérémie 3, verset 12. Alors, Jérémie 3, 12. Crie ses paroles vers le septentrion et dit « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. » Infidèle, hein, et ailleurs il dit ton créateur est ton époux. Et maintenant, dans le futur, la nouvelle Jérusalem, et vous avez bien noté le nom Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, qu'est-ce qu'il est dit de cette nouvelle Jérusalem? Verset 2. Moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Cette épouse qui a été infidèle, et même, on peut dire, l'Église apostate, hein, est une infidèle aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de chrétiens infidèles au Seigneur. Mais au ciel, il n'y aura plus que les fidèles, les vrais. Ceux qui ont été marqués du sceau du Saint-Esprit. Et la ville descend du ciel, elle ne vient pas de la terre, elle descend du ciel vers la terre. Et c'est là que nous habiterons pour toujours, dans cette Jérusalem céleste, cette ville extraordinaire où le Seigneur sera au milieu, il sera notre temple, notre soleil. Nous vivrons dans sa maison, c'est la maison du Seigneur pour son épouse. Que devons-nous penser de tout ça aujourd'hui, dans le présent? D'abord, c'est que nous sommes fiancés au Seigneur. Et chaque fois que nos cœurs s'éloignent de lui, chaque fois que nous allons ailleurs, vers d'autres dieux, d'autres idoles, hein, nous sommes infidèles à notre Seigneur. Et nous sommes infidèles à celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a versé son sang, celui qui est devenu un homme pour toujours. celui qui est notre mari dans le Seigneur. Nous ne voulons pas avoir une attitude un peu mystique comme certaines sœurs catholiques qui disent « je suis mariée à Christ » ou même certains mystiques des temps passés qui disaient « je suis amoureuse de Christ et je suis mariée avec lui et je n'aime que lui ». C'était même des fois un peu bizarre la façon de le dire, presque charnelle. Mais quelque part, nous sommes amoureux du Seigneur, amoureux spirituellement, parce qu'il est tellement extraordinaire, il a fait tellement pour nous. Il nous a sortis de tellement de maux et de souffrances et de péchés. Et il a été tellement patient, tellement miséricordieux, tellement gracieux, qu'on peut vraiment l'aimer de tout cœur. Ce qui manque aux chrétiens, c'est souvent cet amour. Dans le protestantisme, on peut avoir cette tendance à être trop intellectuel, à intellectualiser, si je puis dire, la foi, c'est-à-dire, oui, Christ est mort pour nos péchés. Donc, si je crois en lui, il pardonne mes péchés et je suis donc racheté, je suis justifié. On peut dire tout ça sans aimer le Seigneur. Et c'est là qu'il va y avoir une différence. Est-ce que tout cela, ça me touche, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans cette histoire des réveils? Ces chrétiens, lorsqu'ils ont écouté à nouveau l'histoire de la croix, l'histoire de Christ, pour eux, ils ont fondu en larmes parce qu'ils ont dit « Mais qui suis-je pour qu'on m'aime à ce point? Qui suis-je pour qu'on donne sa vie pour moi ?» Ils étaient dans des églises, justement, où on avait prêché ces vérités, expliqué ces vérités, mais sans cœur, sans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, en France en particulier, on est tenté par ce genre d'attitude, d'être intellectuel, universitaire, n'est-ce pas? Au lieu de penser que Christ est mon époux, je veux l'aimer de tout cœur, me soumettre à lui, femme, soyez soumise à votre mari, comme l'Église est soumise à Christ. Nous voulons nous soumettre au Seigneur Jésus, comme à notre mari, et l'aimer, et le jour où il viendra nous chercher, on sera heureux de le voir enfin, de le retrouver. Qu'on soit une femme ou un homme, une femme, c'est peut-être particulier pour elle parce qu'elle peut attendre Christ comme son mari, mais un homme aussi, c'est ça qui est bizarre. En tant qu'homme aussi, on peut attendre Christ comme notre Dieu que nous aimons de tout cœur. Si vous n'avez pas cet amour ou si notre cœur est un peu refroidi à ce niveau-là, c'est le moment, là encore, de venir au Seigneur, de regarder dans les évangiles, de regarder la croix, ce qui s'est passé là, ce que le Seigneur a fait pour nous. Je propose qu'on termine par la prière. Seigneur, je veux te louer, t'adorer, parce que tu as révélé pour nous des mystères incroyables. Et ce soir, c'était ce mystère de Christ qui se livre pour l'Église, qui devient un homme pour emmener avec lui au ciel cette épouse qu'il aura purifiée par sa parole, par son sang, par l'Esprit. Seigneur, merci de nous avoir aimés, mais on ne dira jamais assez merci. Aide-nous, Seigneur, à enlever la carapace autour de notre cœur, enlever ce rocher qui nous empêche de t'aimer de tout cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Je prie, Seigneur, que cet esprit froid et trop intellectuel parfois, qui devient même une idole, tombe. Et que nous soyons comme cette jeune fille qui dit « J'aime le Seigneur Jésus de tout mon cœur ». Merci Seigneur de ce que tu as fait dans le passé. Tu veux le refaire encore aujourd'hui dans le présent. Et nous demandons que ton esprit vienne sur nous, donner ses fraîches rosées. Amen.